Donc bonjour à tous, Marie-Josée Nallaire, je suis directrice du stationnement et des nouvelles mobilités au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je travaille au sein de la direction de pôle service mobilité de Delphine Le Rudulier et au sein de la DGA mobilité transport infrastructure et voirie de Claude Fauché. Donc moi je vais faire un petit peu d'histoire sur ce schéma directeur des IRVE parce que l'année dernière ça a été une année un petit peu stratégique, il fallait sortir ce schéma directeur des IRVE, c'était un élément important pour la collectivité mais ça permettait aussi aux entreprises de manière peut-être assez cupide de toujours bénéficier des 75% d'abattement pour les frais de raccordement. Donc ce schéma directeur des IRVE, la métropole est compétente pour le définir, mais de manière assez stratégique, il a été plutôt choisi de travailler sur un schéma directeur à l'échelle du département. C'est dans ce cadre-là que la collectivité a décidé de s'associer avec le département des Bouches-du-Rhône, CCVBA, le SMET 13, la communauté d'agglos d'Arles, de Lacroix et de Camargue. L'idée, c'était de travailler à une échelle qui nous semblait plus pertinente pour ce schéma directeur des IRVE. Donc l'idée, c'est quoi dans le cadre de ce schéma qui a été adopté le 20 octobre 2022, c'était de travailler ensemble pour atteindre un maillage pertinent sur l'ensemble du territoire. En effet, ce que l'on peut se dire quand on est utilisateur de véhicules électriques, je pense que c'est surtout en diffusion où on a un peu la crainte de la panne. Donc c'est travailler en effet sur un maillage qui nous permet de toujours trouver finalement une réponse pour pouvoir se recharger. Donc dans le cadre du schéma directeur, nous avions établi que le nombre de points de recharge qui était nécessaire à l'horizon 2025, c'était d'atteindre le chiffre de 7380 points de charge sur le territoire. Finalement, ce que l'on a pu constater à l'issue de 2022, c'est que nous avons finalement développé 1608 points de charge. Et donc, le chemin restait à parcourir était encore important pour parvenir finalement à cet objectif. Cette année, en septembre 2022, 23, nous en sommes à 2669 points de charge et par rapport à l'objectif initial dont j'ai parlé initialement, il nous reste 4711 points de charge encore à développer. Ce que l'on peut constater, c'est que finalement, nous avons dépassé les objectifs que nous nous étions fixés dans l'année, mais que pour autant, le travail qui reste à faire est encore assez important pour parvenir à atteindre ces objectifs. Donc, si nous regardons plus précisément en termes de puissance, la puissance qui est la plus étendue aujourd'hui, elle va de 7 à 22 kWh, donc 59%, alors que quand on regarde les superchargeurs, ils sont encore, en retrait, alors que, comme le disait tout à l'heure Sandrine, c'est véritablement sur ce projet qu'il va falloir travailler, puisque désormais, la recharge doit être rapide, doit être efficace pour finalement amener et convaincre les usagers à opter pour ce type de véhicule le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on peut constater aussi en termes de catégories ? Les bornes de recharge électrique se trouvent principalement dans les parkings de commerce. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Lidl qui viendra nous exposer la situation dans ces magasins, puisqu'on en voit fleurir de plus en plus. Et puis au sein des parcs de stationnement. Néanmoins, ce qui est assez contrariant, c'est qu'on a encore peu de bornes sur la voirie, et Sandrine a parlé tout à l'heure des contraintes que nous avions en termes d'occupation du domaine public et en termes de circulation. Et puis, dans les parkings d'entreprise, mais ça se fait peu à petit, puisque le verdissement des flottes est en marche et qu'il va falloir trouver des solutions plus propres pour recharger les véhicules dont se doteront les entreprises. Donc vous avez ici un point d'évolution hein, qui évoque finalement ce que je viens d'exposer, avec quand même une montée en charge qui va crescendo, qui se fait peut-être plus lentement pour les superchargeurs, mais nous avons rencontré plusieurs entreprises, notamment dernièrement nous avons rencontré Total, mais ça se fait de toute manière au niveau de toutes les entreprises, qui passent des stations désormais en full électrique. Donc on voit que la dynamique est en marche, que c'est une dynamique qui se fait, qui se construit petit à petit, mais qu'il va y avoir un véritablement changement de paradigme en termes de circulation et d'évolution, on va dire, en termes d'utilisation de ces points de charge. Malgré tout, ce que l'on peut regarder sur ce camembert, c'est que la majorité des points de charge se trouvent à domicile, à hauteur de 58%. 37% sont, enfin c'est une estimation, se trouvent au sein des sociétés, alors que seulement 4% se trouvent sur l'espace public. Alors, la métropole, qu'est-ce qu'elle a fait pour faire un petit peu d'histoire, si je reviens de manière empirique hein, sur la stratégie de la métropole. La métropole, d'abord, elle a voulu impulser la recharge, le déploiement d'IRVE en créant ce service de la recharge. La recharge, aujourd'hui, c'est environ 550 points de charge répartis sur le territoire. On verra tout à l'heure des cartes qui permettent d'avoir une image globale de ce service, la recharge. Et puis, finalement, en avril 2011, il a été constaté que, finalement, l'initiative privée prenait le dessus. Et donc, l'initiative, constatant ce fait, la métropole s'est retirée en avril 2011 pour laisser l'initiative privée pleinement s'exprimer sur les recharges électriques. Mais pour autant, la collectivité a voulu continuer à impulser cette activité. Et donc, dans ce cadre-là, elle a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Un appel à manifestation d'intérêt finalement s'appuie sur trois opérateurs qui sont Engie, Isivia et Total Energy. Il s'agit d'équiper 450 sites au sein de la métropole. Mais dans ce cadre-là, la métropole, comment ça se passe finalement cette AMI ? Elle va voir, elle rencontre les communes pour finalement référencer l'ensemble des besoins. Et puis, elle crée des lots qui sont pertinents parce qu'à l'instar de ce que disait M. Fauché, il ne s'agit pas là de créer finalement des situations où des territoires seraient très bien desservis au détriment d'autres territoires qui auraient finalement des pôles générateurs moindres et qui seraient moins bien desservis. L'idée de la collectivité, c'est de finalement installer des bornes électriques, du moins inciter à l'installation de bornes électriques de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Mais en l'occurrence, dès lors que ces lots sont créés et que cette mise en concurrence est faite avec ces trois opérateurs qui ont été choisis, ensuite, ces opérateurs travaillent en lien avec les communes pour le déploiement de ces bornes une fois que ces lots ont été attribués. Puisque là, on n'est pas dans le cadre de la commande publique, on est sur le domaine de l'occupation du domaine public. Donc, les opérateurs en lien avec les communes qui ont défini du montant de l'occupation de ce domaine public, de ces redevances d'occupation du domaine public, doivent se mettre en relation pour établir ces conventions et pour déployer ces bornes sur ce territoire. Finalement, ces conventions d'occupation de domaine public vont être plus ou moins importantes, hein, entre 10 et 15 ans, selon le type de borne, puisque dans le cadre de l'AMI, l'opérateur privé, que ce soit Engie, Isivia ou Total Energy, va supporter l'ensemble des investissements. Et ensuite, il va exploiter à son risque, hein, on va dire à son risque, l'ensemble de ces bornes. L'idée, c'est bien de permettre à l'ensemble des usagers, finalement, de trouver la solution la plus adaptée à son besoin. Un besoin à la fois de proximité, on l'a vu tout à l'heure avec Sandrine, hein, et généralement, cette proximité se fait la plupart du temps à domicile, mais peut se faire aussi sur la voie publique, mais aussi en termes de diffusion, puisque l'idée, c'est quand je pars en voyage, il faut que je sois certain de pouvoir me recharger quand j'en ai besoin. D'où l'importance aussi de travailler sur la tarification, d'une part, mais aussi sur l'interopérabilité, puisque l'idée, c'est de toujours pouvoir me servir des cartes dont je suis porteur pour pouvoir me recharger. Donc, à ce stade, ce que l'on peut se dire, c'est que la métropole, elle a déjà attribué 7 lots dans le cadre de cette AMI pour équiper 221 sites. Aujourd'hui, 83 stations sont déjà en service et 138 stations sont, en l'occurrence, aujourd'hui, en cours de déploiement. Ce que l'on peut se dire, c'est que sur cette AMI et dans le cadre de ces 7 lots, on en est à 38% de déploiement. Une nouvelle consultation qui concerne 120 nouvelles stations est en cours et sera attribuée d'ici début 2024. Et puis, on va dire que dans le cadre de cette AMI, qui va courir jusqu'à juillet 2026, l'idée, c'est d'arriver, de parvenir à 450 stations à terme. Par ailleurs, la métropole est aussi, on va dire, compétente, autorité organisatrice en termes de stationnement d'une part. Elle gère l'ensemble des parcs de stationnement quasiment sur son territoire, hein, depuis la loi 3DS qui lui a conféré finalement cette compétence. Et puis, la métropole est aussi en charge d'équiper ses parkings relais et ses parkings d'entreprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que bien, nous avons des parkings relais qui sont existants, des parkings relais qui sont à venir, hein, dans le cadre de la mise en œuvre de notre réseau express métropolitain, d'une part, mais aussi de l'ensemble des réseaux de transport qui sont développés à l'échelle métropolitaine, de développer, en l'occurrence, ces pôles d'échange multimodaux qui sont finalement parfois accompagnés de parcs relais ou pas, mais en tout état de cause, il s'agit désormais d'équiper nos parkings relais. Donc aujourd'hui, nous avons 128 points de charge au sein de nos parcs relais et l'idée, c'est de finalement développer 578 nouveaux points de charge dans nos parcs relais et 94 dans nos immobiliers d'entreprise. Donc aujourd'hui, pour ce faire, puisqu'il s'agit de notre propre besoin, la collectivité travaille sur un marché public, hein, pour équiper l'ensemble de ses parcs relais, voire intègre dans les nouveaux projets qu'elle conduit, puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs parkings relais qui sont en cours, que ce soit à plan de campagne où il s'agit d'un pôle d'échange multimodal équipé d'un parc relais, mais aussi Dromel-Sainte-Marguerite, mais aussi demain Boiseret. Et l'extension de fourragère qui vient de faire jour, l'idée, c'est d'intégrer au sein de ces opérations la mise en œuvre de ces points de charge au sein de nos parcs relais et plus particulièrement aussi, là pour nos autres collègues, les immobiliers d'entreprise. Et puis, dans le cadre des parcs de stationnement, les parcs de stationnement, aujourd'hui, la collectivité gère environ 16 contrats de délégation de services publics, que ce soit en concession de services publics ou en affermage. L'idée, c'est que la collectivité travaille soit dans le cadre d'avenants à ses contrats DSP pour équiper ses parkings, mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que nos opérateurs qui travaillent à l'international, que ce soit Indigo, que ce soit Qpark, que ce soit SAGS, des gens qui, EFIA Stationnement, qui travaillent à l'international, j'allais dire, ne nous ont pas attendus pour déployer des bornes. Mais nous avons quand même des contraintes fortes et des suggestions en termes de sécurité, puisque finalement, on est souvent dans des discours qui finalement sont un peu dichotomiques, où nous avons des obligations qui sont finalement contraintes par des suggestions en matière de sécurité incendie. pour un exemple qui vient de se passer aujourd'hui, déployer 10 bornes de recharge électrique dans le cadre de l'extension du parking relais de la Fourragère. Et au-delà de 9 bornes, nous étions obligés de déployer un compartimentage, alors même que nous étions en aérien. Nous étions en aérien, mais il y avait une petite avancée, une espèce de petite casquette qui venait recouvrir les 10 bornes. Et nous avons été obligés de traiter, de réaliser un compartimentage entre ces 9 premières bornes et finalement l'unité marginale de la 10e borne pour rentrer, pour être dans les clous de la sécurité incendie. Donc la sécurité incendie, c'est une véritable suggestion que les acteurs, on va dire, du stationnement, sur lequel les acteurs du stationnement travaillent, pour permettre d'offrir, on va dire, les bornes de recharge électrique au sein des parcs de stationnement, tout en respectant cette contrainte, mais cette contrainte qui est avérée. Un véhicule électrique qui s'enflamme dans un souterrain, ça peut s'avérer catastrophique en termes de sécurité de l'ouvrage. Mais ce qui est intéressant quand même dans le cadre de l'obligation de réaliser ces bornes de recharge électrique, c'est qu'un opérateur a toute opportunité de déployer l'ensemble de ces bornes sur un ou deux sites qui finalement s'apprêteraient mieux à recevoir ces bornes. Donc il y a tout un travail aujourd'hui qui est en cours, à la fois avec les services de secours et à la fois avec les opérateurs du stationnement pour accompagner, on va dire, ce changement de paradigme, cette obligation légale de créer des bornes électriques, mais tout en garantissant, on va dire, la sécurité des usagers au sein de nos ouvrages. Donc aujourd'hui, nous avons 251 points de charge. L'objectif, c'est d'avoir 1246 points de charge au sein de nos parcs de stationnement. Ce que l'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 4 procédures de délégation de services publics qui sont en cours de négociation, avec que ce soit sur Marseille, sur Salon et ailleurs. Dans l'ensemble de nos documents programmes, dans nos cahiers des charges, nous imposons désormais la réalisation de ces bornes de recharge électrique. Et nous impulsons en tout état de cause le déploiement de ces bornes et nous veillons à ce qu'elles soient déployées de manière équitable et à un prix tout à fait raisonnable. Alors, ce que l'on peut se dire, par contre, sur... sur le système de la recharge que la collectivité avait engagé en 2020, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 260 stations qui sont en fonctionnement, dont 96 sur Marseille. Et comme le disait tout à l'heure Claude Fauché, on peine à trouver finalement le meilleur équilibre économique pour ce réseau de la recharge. Donc nous travaillons en s'appuyant sur un marché piloté par le SMET13, groupement de commandes, avec donc comme titulaire Engie et comme co-traitant le SMEG qui s'occupe de toute interopérabilité et de la collecte de recettes, puisque nous avons une convention de mandat avec le SMEG, et la société Eiffage en termes de travaux. Un fournisseur d'électricité relève du SMET13 avec Plume et EDF. Ce que l'on peut remarquer ces derniers temps, c'est que, on l'a tous vécu, c'est que les prix de l'électricité ont explosé et du coup, on a du mal à trouver le meilleur équilibre économique à la fois pour les usagers, mais à la fois pour la collectivité. Donc, c'est un écosystème qui se cherche. Est-ce que demain, on passera dans le cadre d'une AMI globale où on intégrera à la fois les bornes existantes et puis on laissera aux opérateurs l'opportunité de déployer d'autres bornes, voire de les remplacer par des bornes qui sont plus efficaces. Est-ce qu'on passera par un contrat de délégation de services publics? Est-ce qu'on passera par une concession? Tout le champ des possibles est ouvert et nous travaillons sur cette étude. Quand on regarde globalement cette carte, dire qu'en termes, et là je rejoins tout à fait Sandrine, hein, c'est que quand nous avons travaillé sur le déploiement de ces bornes, il fallait que l'on travaille de manière équitable sur le territoire pour essayer de servir l'ensemble. Et on peut voir qu'on a essayé en tout état de cause d'en déployer un peu sur l'ensemble du territoire. Alors, bien entendu, qu'il faut que ce déploiement continue, mais en tout état de cause, désormais, je vous l'ai dit tout à l'heure, la collectivité s'appuie sur l'AMI. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le taux d'occupation moyen est de 22%. Et on a constaté quand même, puisque la collectivité a dû revoir ses tarifs du fait de la forte inflation en termes d'électricité, c'est qu'on a vu une baisse de l'utilisation de ces bornes la recharge, avec un taux d'occupation qui est en retrait de 4%, qu'on a une durée moyenne de recharge de 2h50, alors qu'auparavant elle était de 3h, et que la recharge moyenne s'établit à hauteur de 21,6 kWh. Ce que l'on peut se dire quand même, c'est que ces chiffres, pour pouvoir les interpréter, il faudrait que l'on conduise des études un peu plus approfondies. Est-ce qu'il s'agit désormais d'un retrait par rapport aux tarifs? On sait qu'on a des progrès à faire, puisqu'aujourd'hui, le système de la recharge ne fonctionne qu'au temps passé, quand il faudrait avoir une conjugaison à la fois du temps passé et des kilowattheures délivrés. Donc pour ce faire, eh bien, la collectivité va travailler demain, enfin, travaille déjà sur le déploiement d'un système de mesure des kilowattheures déployées, avec un système de MID qui serait déployé sur ces bornes, tout autant que celle-ci puisse le supporter. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une révision, en ce sens que désormais la recharge n'est pas seule, puisque on a des bornes désormais qui sont déployées par des opérateurs privés, et donc on voit bien que ce choix permet à l'utilisateur d'avoir d'autres possibilités pour pouvoir se recharger. On a des bornes qui se déploient aujourd'hui dans les centres commerciaux. On a finalement toute une variété d'offres qui permet aujourd'hui d'avoir un choix qui est beaucoup plus important. Donc, ce que l'on peut se dire, c'est que il va y avoir des évolutions, et il va y avoir aussi des évolutions qui vont être finalement qui reposent sur les différents véhicules qui pourront être déployés et du moins en possession par les usagers. Donc il y a une véritable réflexion aujourd'hui de la part de la collectivité qui recherche le meilleur modèle économique tant pour les usagers mais aussi pour elle-même, hein, pour avoir quelque chose d'équilibré. Et puis travailler aussi sur la tarification qui serait la tarification la mieux équilibrée à la fois, comme je le disais tout à l'heure, sur les kilowattheures délivrés et sur le temps passé par place. Voilà.